comme quelques principes qui ont présidé à la rédaction des programmes. Je me glisse vraiment très, très clairement dans ce que Pierre Kahn et son équipe ont voulu faire. Transmettre des savoirs, parce qu'il y a des savoirs derrière l'EMC, mais il n'y a pas que ça. Et c'est après que ça se complique, faire partager les valeurs de la République, ce qui n'est jamais qu'une reprise du code de l'éducation. Je veux dire, dans un des textes les plus durs qu'il nous organise, j'ai comme mission de faire partager les valeurs de la République. Et derrière le terme qui est dans le code de l'éducation, je vous alerte simplement. L'ambition est énorme, elle est peut-être démesurée. Il ne s'agit pas de transmettre les valeurs de la République, ou si vous préférez, de faire apprendre les valeurs de la République. Je veux dire, on ne va pas faire un apéro à tous les gamins à la sortie de la scolarité obligatoire de réciter les valeurs de la République. Il s'agit de les faire partager. Et là, est-ce qu'on sait faire? En tout cas, c'est beaucoup plus ambitieux que simplement les transmettre. Alors, quelques principes qui ont présidé et qu'il faut garder en tête. Le premier principe, c'est que l'éducation commence dans la famille. Et je reprends les termes de Pierre Kahn. Moi, j'aurais été plus loin même dans l'écriture. L'éducation relève d'abord de la famille. Ça aussi, c'est dans la Constitution. Nous ne nous substituons pas à la famille pour l'éducation des enfants. La responsabilité de l'éducation relève de la famille. Et la famille peut nous confier une partie de cette éducation. Je dis bien peu, puisque il n'y a pas d'obligation au sens où on l'entend en raccourci. Il y a une obligation d'éducation. C'est-à-dire que mesdames et messieurs les inspecteurs peuvent vérifier si l'enseignement fait dans la famille a abouti aux résultats attendus par l'école, que le gamin sache lire, écrire, compter, etc., etc. Vous pouvez assurer cette éducation hors d'un établissement de l'éducation nationale, qu'il soit public ou privé. Heureusement pour notre pays que c'est une infime minorité qui augmente actuellement d'instruction qui se passe à domicile. Mais ça existe. Il faut quand même le savoir. Mais gardons en tête il y a quelque chose de consubstantiel à notre Constitution et à la Constitution de l'immense majorité des pays qui fait que nous sommes des héritiers de Condorcet, pas de Robespierre. L'éducation, c'est d'abord la sphère familiale et l'État n'arrache pas l'enfant à cette sphère familiale. Il y contribue par une forme de délégation qui est fondée avant tout sur la confiance. Deuxième principe important, le cadre scolaire de l'EMC est celui de l'école, tout simplement, c'est-à-dire celui de la laïcité et de la neutralité. Alors j'y reviendrai assez longtemps, pas trop quand même, pour ne pas vous ennuyer, mais c'est fondamental. Le cadre de l'éducation morale et civique est le cadre d'une école qui s'inscrit dans une république laïque, et de la conséquence de cette laïcité, de la neutralité des fonctionnaires qui mettent en œuvre cet enseignement. Il est très rare que dans un cours de maths, vous ayez des problèmes de conscience par rapport à votre neutralité. Dans un cours d'histoire, ça commence à être de temps en temps problématique, régulièrement problématique. De temps en temps, même dans des cours de sciences. Mais dans un cours d'enseignement moral et civique, c'est permanent. Et donc, vous devez vous exiger de vous-même de rester totalement neutre par rapport à cet enseignement. On y reviendra. D'autres principes, alors je laisse le diaporama à votre disposition, c'est une œuvre commune qu'on a fait avec des collègues, donc c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous aider, il n'a pas d'autres fonctions. La seule, quand je dis je laisse à la disposition, c'est aussi que je vous fais confiance. Enfin, je vous fais confiance, vous avez le droit d'en utiliser une diapo sur 20 ou 4 sur 20 ou toutes les diapos. La seule chose que je vous demande, c'est pas évidemment d'en déformer les propos. Hein. Le diaporama est ouvert, il n'est pas protégé. Je ne voudrais pas voir un jour, comme jeune retraité, le fait d'avoir mis des phrases négatives à la fois de phrases positives pour déformer complètement ce que j'essaye de vous dire. Mais là, c'est dans un état avec des fonctionnaires responsables, je n'ai pas peur. Mais ce diaporama vous sera donné. Donc, des valeurs, des normes communes qui donc sont susceptibles d'être connues, comprises, ça va, c'est notre job habituel, faire connaître et comprendre, mais surtout accepter de tous, quelles que soient les appartenances et les croyances particulières. Et là, les valeurs de la République, hein, l'enseignement moral, nous interroge véritablement par rapport à des croyances particulières. Je n'ai pas besoin d'illustrer par un exemple, si je peux le faire. Un des principes fondateurs de la République démocratique et sociale, c'est l'égalité. Le fondement, la première égalité de notre République, c'est l'égalité entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Et vous savez très bien que ça peut heurter des croyances. Donc, notre rôle, c'est de faire connaître, de faire accepter par tous ce qui est un des fondements du vivre ensemble dans une république démocratique et sociale comme la République française. Alors, d'abord, ça a des exigences pour nous, hein, pour nous enseignants, celui de respecter des choix et des convictions personnelles des familles. Respecter ne veut pas dire appliquer en classe, mais ça veut dire connaître et respecter. Celui qui fait que, dans notre posture d'enseignant, nous devons adhérer aux valeurs communes et au sens de la citoyenneté républicaine et démocratique. Alors, très naïvement, vous avez vu dans les plus jeunes d'entre vous l'ont peut-être vécu, mais dans les nouveaux concours de recrutement, le ministre a demandé au jury de faire porter une partie de l'introduction, de l'interrogation sur cette connaissance ou cette adhésion des valeurs de la République. J'ai passé une partie de mon année dernière à voir fonctionner des jurys d'oraux. C'est horriblement difficile. C'est horriblement difficile parce que un jury, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Eh bien, il a envie déjà de vérifier la connaissance d'eux. Et un candidat un peu intelligent qui a envie d'être recruté à un concours, ben il a appris, alors pas par cœur obligatoirement, mais il a appris un petit peu les valeurs. Alors, comment mesurer dans un concours de recrutement l'adhésion à des valeurs? Ça, c'est un petit peu difficile, mais c'est simplement pour vous montrer ce que ça implique de notre part. Et puis, cette connaissance des raisons et du bien fondé de la transmission. Non seulement il ne faut pas heurter les familles, non seulement il faut être soi-même convaincu et adhérer, et ensuite, il faut être sûr du bien fondé de cette transmission. Ça nous permet d'être à la fois sûr de notre bon droit, et ça c'est important, nous sommes protégés par ça, nous sommes dans notre bon droit, mais il faut aussi que nous soyons en mesure de justifier les choix théoriques et pédagogiques que nous faisons. Alors, Alors, plus facile, moins négatif. J'ai peur de... Il ne faut pas vous effrayer quand même. Hein. Je tenais à vous dire ça. Ça ne doit pas vous empêcher de faire. Mais simplement, réfléchir un peu à ce qu'on fait. Alors, quand même, là, de manière très simple, ne pas oublier que l'EMC, donc mise en œuvre depuis la rentrée de septembre 2015, cette EMC existe à tous les niveaux d'enseignement. C'est une nouveauté. Et remplace tout ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire l'instruction morale et civique à l'école élémentaire, l'éducation civique au collège, le CJS, donc l'enseignement civique, juridique et social dans les classes de seconde générale et technologique et les classes du cycle terminal des séries générales, parce qu'elles n'existaient pas dans les autres séries du lycée, l'éducation civique dans le cycle terminal des séries technologiques et l'éducation civique au lycée professionnel et dans les CAP. C'est-à-dire que, pour une fois, et sauf si j'ai raté un texte, pour la première fois, vous avez le même corpus de programme, avec bien sûr des niveaux, des repères selon l'âge, selon le type d'établissement, mais le même programme, selon les mêmes principes, qui s'adresse à tous les élèves de l'enseignement scolaire. C'est quelque chose d'important parce qu'on a eu tendance à avoir un peu de mépris, je pense surtout au lycée professionnel, au CAP, aux classes d'apprentissage, pour ce type de formation dont ces élèves ont autant besoin que les autres. Alors, il y a des horaires qui sont dédiés, mais qui ne sont pas limitatifs. Alors, vous allez me dire, là, c'est un vœu pieux. Non, pas tout à fait. Enfin, j'ose espérer que non. J'ose espérer que non, parce que si nous limitons l'EMC aux horaires dédiés, eh bien, je ne peux pas vous inviter, vous êtes un peu nombreux, mais on arrête tout de suite cet après-midi, on va aller boire un café à côté. Je veux dire, c'est très clair que les horaires véritablement dédiés sont des horaires très peu importants pour un corpus de programme gigantesque. Donc, si vous mettez en relation les horaires dédiés avec le programme, on arrête tout de suite. Je veux dire, c'est impossible. Alors, au lycée, c'est une demi-heure hebdomadaire. Mais quand même, pour des tas de raisons historiques... pour ne pas être désagréable, elle est historique, elle est dédiée le plus souvent aux profs d'histoire-géo. Pour des raisons historiques et techniques, je veux dire, on peut reprocher tout ce qu'on veut à la ministre. Non, je veux dire, vous ne changez pas du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, une demi-heure de moins à un corps de professeur, c'est 1000 postes, c'est 1000 postes qui sautent et 1000 postes qu'il faut remplacer par quelque chose qu'on ne sait pas. Je veux dire, les collègues proviseurs ne peuvent pas du jour au lendemain dire ah ben, dans mon lycée, ce sera. Donc, on a préféré jouer la sécurité, jouer aussi une continuité de l'emploi dans notre pays, et le confier aux profs d'histoire-géographie, au lycée, au collège aussi, puisqu'il s'agit d'une demi-heure hebdomadaire qui est prise sur le temps. Enfin, est inclus dans le temps de service des profs d'histoire et de géographie. Alors, à l'école primaire, c'est plus facile, sur le papier, bien sûr, puisqu'il n'y a pas à se battre entre des profs des écoles qui enseigneraient telle discipline ou telle autre. Et donc, là, ça a été la volonté de Vincent Payon. On a mis une heure. On a mis une heure en sachant qu'on n'a quand même pas eu le courage de mettre les récréations, de déduire les récréations du temps d'enseignement. Mais, quand je dis non limitatif, parce que une partie importante, pour ne pas dire la plus grande partie de ces programmes, devrait être partagée entre des enseignants d'autres disciplines ou à l'école primaire, des enseignements qui ne relèvent pas de l'histoire et de la géographie. Et ça va être l'une des grandes difficultés dans les collèges et dans les lycées et à l'école primaire, d'essayer de faire vivre ça. Et si j'insiste là-dessus, c'est aussi pour vous dire que c'est ce qui explique le choix de la ministre, vraiment le choix de la ministre, même pas de ses conseillers, de commencer cet enseignement dès cette année. Parce que la ministre a été totalement convaincue que de faire démarrer l'EMC, ce qui aurait été logique intellectuellement, en même temps que les autres nouveaux programmes et en même temps que la réforme du collège, la ministre a dit, si on fait ça, il y a 99% de chances que les enseignants fassent à la montagne de choses nouvelles qu'il faudra digérer, fassent passer l'EMC après tout le reste. Et, je veux dire, ça aurait été propre de collège à la rentrée prochaine, c'est ce que j'aurais fait. Donc, très clairement, l'idée est de dire, on va profiter de cette année entre deux pour permettre aux enseignants de s'imprégner de cet nouvel enseignement, d'en voir la richesse, de le préparer pour que quand ils auront à faire tout le reste, au moins ils n'auront plus trop de préoccupations par rapport à ça. Alors pourquoi l'EMC